L'arrangeur, c'est un bouquet pas très joli, ça, un côté un peu tripatrouilleur. Je vais vous arranger ça, ne vous inquiétez pas. L'arrangeur part souvent d'une ligne mélodique qui n'est même pas écrite. Vous vous débrouillez.
Il y a presque 100 ans, le métier d'arrangeur et le mot arrangement a été inventé à cette époque-là. En tout cas, on a inventé le mot arrangement pour le jazz.
C'est tout ce qui n'est pas pour moi les paroles et la mélodie de la voix. Et tout ça peut relever de l'arrangement. Et c'est vrai qu'un arrangement, il peut respecter totalement la composition originale, mais parfois on peut s'en détacher.
Arranger, c'est le mot stupide. Ça veut dire rien de tout, arrange.
France Culture.
C'est plutôt la mise en scène de musique.
La série musicale.
C'est ça, c'est un metteur en scène de musique. C'est beaucoup mieux que arranger.
Zoé Sfez.
Bonjour, ravi de vous retrouver ce dimanche encore pour une émission, comme toujours, toutes les semaines, libre de toutes les substances, de tous les récits, de tous les détours et de toutes les célébrations les plus dues. Une heure de radio sur la musique et en musique. Bienvenue. Inaugurons ce dimanche ensemble une nouvelle série, et oui, encore une, consacrée à des figures essentielles de la musique, mais que l'on connaît trop peu, voire pas du tout. Pourtant, je vous vois, vous écoutez une chanson, vous pleurez sur la bande originale d'un film, vous aimez ces cordes derrière la voix d'un chanteur chéri, vous admirez la capacité de votre groupe de rock ou de votre diva préférée à changer de style, à se renouveler sans cesse au gré des albums. Eh bien, sans doute, sans le savoir, c'est au travail de l'arrangeur ou de l'arrangeuse que votre oreille est sensible et donc reconnaissante. Pourtant, ils, elles, n'apparaissent quasiment pas, car ils ne sont ni les compositeurs, ni les auteurs de cette œuvre. Alors l'arrangeur, qui est-il? Qu'a-t-il fait exactement? Beaucoup, presque tout, diront certains. Si le rôle de l'arrangeur a beaucoup changé, évidemment, au cours de l'histoire de la musique, et notamment de la musique enregistrée, l'ampleur de ce que l'on doit aux arrangeurs, car ce sont souvent, bien sûr, des hommes, à la fois en termes de composition, concrètement, dans les pièces musicales les plus aimées du XXe siècle, mais aussi en termes de couleur, est sans doute impossible à mesurer. Une chose est sûre, c'est au XXe siècle, et par le jazz, que ça commence, et souvent les arrangeurs sont d'immenses compositeurs. Arrangeurs, les génies de l'ombre, c'est la série musicale sur France Culture.
Tears are distracted from the sadness and the soulness. You take her for a walk along the quiet country and rest beneath the shade of trees where here and there you gather flowers. Beside the music and the water is the peacefulness of nature. She will enjoy it very much, and surely you'll enjoy it too. But son, you must remember, do not use it on yourself. Put down yourself one little step to help the weak one.
La ballade de Sacco et Vanzetti, la voix de John Baez et le génie du chef d'orchestre, du compositeur Ennio Morricone. Ennio Morricone, le plus important compositeur de musique à l'image du XXe siècle, nous dit son site internet. Une carrière gigantesque, immense, gargantuesque, presque baroque, qui a commencé, et on l'entend très bien dans ce morceau, qui a commencé d'abord et avant tout comme une carrière d'arrangeur. Ennio Morricone, avant d'être chef d'orchestre, avant d'être compositeur, avant d'être orchestrateur, et bien arrangeur. Et on le sait, c'est comme cela qu'il s'est formé. Et d'ailleurs, quelle est la différence entre un arrangeur et un orchestrateur? Réponse avec l'un des meilleurs arrangeurs de la chanson française, Pierre Robert.
L'orchestration, ça consiste en principe à répartir les sons d'une partition existante complète. Ravel, par exemple, orchestre les tableaux d'une exposition. Il a une partition complète. Il vient, lui, Ravel, au travers de cela. Mais la partition, il n'invente pas de notes. Il a des trouvailles de pupitres d'orchestre, bien sûr, et de ses couleurs personnelles. L'arrangeur, c'est un mot qui est pas très joli, ça a un côté un peu tripatrouilleur, je vais vous arranger ça, ne vous inquiétez pas. Et l'arrangeur part souvent d'une ligne mélodique qui n'est même pas écrite.
Nous sommes en 1923, vous écoutez le Fletcher Anderson Orchestra, l'un des tout premiers orchestres qui donne lieu au son qu'on va appeler le son swing. C'est l'un des sons les plus modernes, celui qui va dominer les années 20, les années 30 et jusqu'aux années 40. Un son essentiel dans la musique moderne. Et ce son, on le doit à un homme qui n'est pas crédité ici, puisque le nom du brass band, c'est bien Fletcher Anderson, celui qui le dirige. Mais c'est à Don Redman, l'arrangeur de ce brass band, qu'on doit littéralement ce son. C'est lui qui, en 1923, quand il intègre cet orchestre, va commencer à réaliser concrètement les arrangements de cet orchestre. Concrètement, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est lui qui commence à écrire les harmonies qui vont être jouées derrière les solos des instrumentistes. Alors lui, il jouait du trombone essentiellement et du saxophone, mais c'est lui qui va mettre en place tout le système d'équilibre qui va donner de la texture, de la rondeur et toute sa dimension au son de cet orchestre qui donne naissance au swing. En réalité, Don Redman est l'un des tout premiers arrangeurs. C'est là que le terme naît dans le jazz. On est au début des années 20, comme le rappelait l'un des meilleurs arrangeurs de notre temps, un certain Pierre Bertrand.
Il y a presque 100 ans, on a inventé le mot arrangement dans le jazz en 1924, quand ils ont eu l'idée de faire du jazz avec un grand orchestre. Et c'est là que des gens ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un arrangement. Le métier d'arrangeur et le mot arrangement a été inventé à cette époque-là, en tout cas pour le jazz.
Trompette Noël, la trompette sans fin de Duke Ellington et de son orchestre. On est dans les années 20. Duke Ellington qui joue comme un homme et pourtant ce son Blue Skies en réalité a été arrangé par une femme, Marilee Williams. On avait à cœur d'ouvrir cette émission avec cette figure féminine, l'une des rares qui à la fois existe dès les débuts et tout au long de la grande histoire du jazz puisqu'elle est active des années 20 aux années 70 et l'une des beaucoup trop rares arrangeuses de ce début du 20e siècle, Marilee Williams, pianiste, femme noire, qui vient à la musique de manière totalement autodidacte. Elle apprend à jouer au piano toute seule et se produit dès ses 8 ans dans les salons huppés, parce qu'évidemment, il faut gagner sa vie. Marilee Williams, qui va devenir arrangeuse dans plusieurs grands orchestres de jazz, notamment évidemment celui de Duke Ellington, qui comptera beaucoup. C'est l'une des marraines de cœur d'hommes comme Thelonious Monk. On la connaît, et c'est ça qui est très difficile pour tous les arrangements qu'elle a produits dans les années 20, 30, 40, 50. 50, 60, sans qu'elle soit évidemment, comme toujours, là encore, absolument créditée partout. On lui doit aussi une œuvre personnelle extrêmement belle, puisqu'en plus, en 1956, elle se convertit au catholicisme et va commencer à écrire de la musique religieuse d'une rare puissance, d'une rare beauté. On lui doit aussi quelques grands standards de jazz qu'elle a entièrement composé elle-même. Et on doit lui rendre, évidemment, ce qu'on lui doit. C'est ce que fait le Umlaut Big Band, qui a rendu hommage à quatre des plus grands arrangeurs de jazz récemment, dont quatre albums qu'on vous conseille vivement d'acquérir. Et notamment ici, en interprétant l'un des tubes de Marilou, Walking and Swinging. Walking and Swinging, composition Marilou Williams, composition et arrangement Marilou Williams, évidemment, grande arrangeuse de ce début de siècle, qui est très symptomatique finalement de ce que va devenir et rester l'arrangeur, l'arrangeuse dans cette musique jazz. Si le terme et la fonction naissent dans ce genre avec le jazz, c'est évidemment parce que le jazz, c'est la musique de l'oralité par excellence, la musique de la spontanéité, la musique de l'improvisation. Il y a cette nécessité de saisir l'instant, la mélodie au vol, et cette nécessité aussi de lui donner de la chair, de la charpente. C'est aussi malheureusement à cause de cela que le terme et la fonction d'arrangeur vont être impalpables tout au long de son histoire. L'arrangeur reste difficile à identifier. La reconnaissance pour lui reste là encore difficile, comme le rappelait, en débattaient en tout cas, trois musiciens, écrivains, spécialistes, amoureux du jazz, Lucien Malson, Laurent Cuny et Alain Galbert. C'était sur France Musique dans l'émission Programme Musical.
L'arrangeur, hein, c'est-à-dire oui, oui. Ces organismes qui réunissaient une dizaine ou une douzaine de spécialistes, gens qui publiaient publiés généralement sous la seule signature du directeur du cabinet et qui produisaient pour accompagner les crooners, pour les studios d'Hollywood, pour les grandes émissions de télévision, etc., etc.
Mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas la coutume, même en Europe, d'appeler arrangeur quelqu'un qui faisait un arrangement précisément, comme vient de le dire très justement Laurent, pour un quintet par exemple. L'arrangeur, oui, chez nous, même dans la vie courante de la critique de jazz française, allemande ou anglaise, l'arrangeur, c'était l'arrangeur de grand orchestre.
Oui, bien sûr. Alors que
c'était inscrit dans notre mémoire. C'est peut-être ça qui a distordu un peu le mot.
On a tendance à lier intimement, comme si c'était une question d'essence, le fait de l'arrangement et l'écriture. Mais il y a tous les arrangements oraux. Enfin, à partir du moment où on fait du jazz, pratiquement, c'est inévitable de faire de l'arrangement. Donc c'est une notion qui est à la fois très large et qui a de nombreuses acceptations. Il faut la préciser
alors,
un peu.
Mais est-ce que les arrangements oraux, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire ce qu'on trouvait le head arrangement chez Bézi, par exemple, à l'époque des années 30, où c'était le big band, effectivement, dans sa pureté classique, est-ce que l'on pouvait dire qu'il y avait un arrangeur, il y avait un ensemble de musiciens qui se mettaient d'accord pour mettre sur pied un morceau?
Je crois qu'il y a eu tous les cas de figure, mais il peut y avoir de l'arrangement sans arrangeur.
Ah, voilà. Alors à ce moment-là, l'arrangeur disparaît aussi.
Oui, bien sûr, oui.
Thank you. un trésor de l'arrangement, le St. Louis Blues, arrangé par Gil Evans. Gil Evans, sans doute l'un des plus grands arrangeurs de l'histoire du jazz. Un personnage extrêmement intéressant puisque c'est un pianiste qui s'est mis à la musique extrêmement tard, de manière autodidacte. Il était né en 1912. C'est un jeune homme assez fougueux qui est aussi passionné par le jazz bop quand il le découvre, pas que par la grande musique française, notamment impressionniste. L'un des arrangements les plus marqués de ses débuts d'année, c'est une transposition de la Plus que lente de Debussy pour le sextet de Jerry Mulligan. Il se met donc très tard à la musique et il apprend sur le tas en intégrant différentes formations. Ce qui frappe tout de suite d'emblée les musiciens qui travaillent avec lui, c'est sa facilité absolument déconcertante à s'adapter à l'univers musical de tous les orchestres qu'il intègre. Très vite, dans les années 40, il va rencontrer un tout jeune Miles Davis qui va lui confier les arrangements d'un premier album, Birth of Cool, qui sera évidemment très important. De tous les gens que j'ai connus dans ma vie, Gil Evans est l'un des rares à pouvoir saisir ma pensée musicale, dira de lui Miles Davis, qui le qualifie aussi de son seul et unique vrai ami. Alors c'est une des questions qui peut se poser quand on écoute à la fois la musique de Gil Evans, celle de Miles Davis, et qu'on réfléchit au rôle d'un arrangeur. Qu'est-ce qui finalement est le plus génial ? Est-ce que c'est la pensée musicale de Miles Davis, ou est-ce que ce n'est pas aussi la capacité de Gil Evans finalement à la mettre en musique concrètement, à l'interpréter, à la faire exister? C'est ce qu'ils vont faire ensemble à partir des années 50 et 60. Tous les deux, on peut dire qu'on doit à Gil Evans la réinvention constante du style de Miles Davis, puisqu'ils se rejoignent quand Miles intègre la maison de disques Columbia. À partir de là, tous les disques de Miles Davis sont arrangés par Gil Evans. On lui doit Miles Ahead, qui va vraiment ancrer Miles dans la modernité, mais aussi un disque qu'on aime beaucoup et qu'on joue assez peu, Sketches of Spain, dans lequel notamment Gil Evans a adapté le fameux concerto d'Alain Ruiz pour Miles Davis. Écoutez, c'est juste brillant. La trompette de Miles Davis, l'arrangement de Gil Evans de ce concerto d'Alain Ruiz qu'on retrouve sur Sketches of Spain, un petit trésor de l'arrangement qu'on affectionne beaucoup, Gil Evans, qui va évidemment beaucoup travailler avec Miles Davis. Une collaboration extrêmement riche, extrêmement fertile, très importante dans l'histoire du jazz et qui va presque, il faut le dire, éclipser sa propre carrière de soliste. Car c'est un petit peu le sort de tous les arrangeurs. Quand on arrange, finalement, on compose et assez vite, il est tentant soit de composer son propre brass band, pour ceux qui en ont envie, soit de se lancer dans une carrière solo. La carrière de Gil Evans, c'est très riche, mais elle est assez tardive, finalement, dans la reconnaissance parfaite qu'elle méritait. On notera que Evans, ensuite, au tournant des années 70, s'intéresse de plus en plus au rock, c'est dire sa capacité à gérer tous les genres musicaux. Son grand rêve, c'était de travailler avec Jimi Hendrix. La collaboration n'aura pas lieu puisque Jimi meurt quelques jours avant sa rencontre avec Evans, qui lui consacrera quand même un très très bel album hommage, qui montre bien, là encore, sa capacité à entendre et à remâcher, à ressortir tout ce qu'il entend, tout ce qu'il considère comme intéressant du point de vue musical. Gil Evans, qui est aussi très emblématique du statut de paria des arrangeurs. Le président de la Columbia m'a dit l'autre jour, disait-il dans les années 70, que mes enregistrements avec Miles étaient devenus au fil du temps ce qu'ils appellent des disques d'or. Et pourtant, moi, je n'ai touché pour chacun que $500 à titre d'arrangeur. Après ça, que dalle, puisque je n'ai aucun droit sur cette musique. On retiendra aussi de lui qu'il a su accompagner quelques chanteurs et chanteuses qu'on aime bien vers le jazz, notamment Astrud Gilberto dans cette reprise de La Felicidad.
Do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza. É como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando da madrugada, fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Astrud Gilberto à Felicidade est le génie d'arrangeur, d'orchestrateur, là on peut vraiment le dire, de Gil Evans qui est audible vraiment de manière assez sidérante. L'arrangeur de jazz, c'est cette figure très forte, cette figure à la fois difficile à porter, à faire exister, à mettre en valeur. Magnifique école pour évidemment composer Magnifique École pour exister, Magnifique École pour apprendre à penser le son, sa matière, sa répartition, comme l'expliquait, comme toujours, Lucien Malson.
C'est vrai que l'arrangement peut commencer très tôt, je pense à quelque chose. Vous jouez une figure classique de batterie sur la caisse claire, bon, ça vous donne quelque chose. Vous jouez la même figure en la distribuant sur les tomes, c'est quelque chose de tout à fait différent.
Bien sûr.
C'est
déjà par définition, on sait que l'objet du jazz, précisément, c'est de traiter un matériau qui est relativement secondaire par rapport à son traitement. Donc, l'arrangement est premier par rapport à la composition. Ça, ça fait aucun doute.
Les cuivres virtuoses du Glenn Miller Orchestra dans Too Little Time et les talents d'arrangeur d'un homme d'origine italienne qui, à l'image d'un autre Italien avec lequel on a ouvert et avec lequel on refermera cette émission, qui à l'image d'un autre Italien a commencé par être arrangeur. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu à sa patte si merveilleusement à la fois romantique et moderne. Il s'agit d'Henri Mancini, lui aussi immense compositeur de musique, de film, célébrissime, carrière inouïe, extrêmement longue. Henri Mancini qui, il faut le rappeler, a commencé par être arrangeur, arrangeur de jazz dans la plus pure tradition, dans ce big band de Glenn Miller, dans lequel en fait il a fourbi ses armes, non seulement d'arrangeur, d'orchestrateur, mais évidemment aussi de compositeur. Et c'est ce statut finalement qui sans doute lui a permis d'innover dans le champ dans lequel il deviendra célèbre, c'est-à-dire la musique de film, l'écriture de bandes originales, où en réalité c'était la tradition orchestrale européenne qui prévalait jusque dans les années 40. C'était ça qu'on cherchait beaucoup à Hollywood en termes de son. Quand lui s'installe sur la côte ouest dans les années 50, après 20 ans, il arrive avec un héritage fort, justement, de jazz et de brass band. C'est lui qui va imposer ce son nouveau dans la musique de film. On pense évidemment à La Panthère Rose, qui, si elle n'est pas jazzistique, qu'est-elle donc cette musique, mais aussi à d'autres bandes originales extrêmement importantes, extrêmement délicates, comme par exemple celle-ci, Wait Until Dark.
Thank you. in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, moon, river, and me.
Truman Capote doit au raffinement d'Audrey Byrne alias Holly Golightly dans Diamant sur canapé, qui joue ce petit chef-d'œuvre Moon River avec une petite guitare sur son balcon new-yorkais, rejointe imperceptiblement et pourtant par le magnifique orchestre d'Henri Mancini. Henri Mancini, donc arrangeur de profession, qui écrit beaucoup de traités sur l'arrangement, des traités qui ont compté dans la vie d'autres arrangeurs ensuite, comme un certain Bertrand Burgala.
Ce qui m'a donné aussi envie, c'est quand j'avais 15 ans, j'étais tombé sur un songbook de Mickey Baker, qui avait fait un traité d'arrangement, qui était un guitariste de jazz, et ça m'avait donné envie. J'avais pas compris grand-chose à son livre, mais après, en fait, quand j'ai des trous, quand je dois faire des arrangements, j'ai deux sources. Moi, celle d'Another, tout d'un coup, je me suis dit, mais comment on écrit ça déjà? J'ai oublié. Et surtout, le bouquin de Mancini, Sounds and Score. Et Henri Mancini, son traité d'arrangement, alors, le traité d'Yvan Julien, il fait 8 tomes, celui de Mancini est beaucoup plus concis, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je me dis, bon, le corps anglais, déjà, quelle est la tessiture, comment je l'écris, et puis quelques conseils. Et pour moi, ça, c'est très précieux.
Virtuose de Mickey Baker, cité comme source, comme inspiration par Bertrand Burgala superbe arrangeur qu'on aime beaucoup, Mickey Baker, qui est une figure très intéressante. On a vu le cas de l'arrangeur soliste génial, mais un peu éclipsé par son propre travail d'arrangeur génial. C'est le cas de Gil Evans et de sa collaboration avec Miles Davis. On a vu le cas de l'arrangeur porté par son métier d'arrangeur, qui en devient une star, c'est Henry Mancini. On a le cas ici de Mickey Baker, soliste, petite star, qui va devenir arrangeur assez jeune, mais ensuite le rester à défaut de pouvoir maintenir une carrière de soliste, puisque Mickey Baker, il est né aux États-Unis dans le Kentucky. Il est noir, il est très vite dans une situation compliquée, puisqu'il n'a pas de père, sa mère l'abandonne à son sort. Très vite, il se joint à un carnaval itinérant. Il passe par Chicago avant d'arriver à Harlem, où il rôde adolescent dans les coulisses de l'Apollo Theater. C'est le trompettiste Dub Bascom qui va le prendre sous son aile, mais il n'a pas assez d'argent pour s'acheter une trompette. C'est un instrument trop cher. C'est pour ça qu'il investit dans une guitare qui va devenir son instrument de prédilection. Très vite, on le retrouve à la guitare dans de nombreux big bands, essentiellement comme soliste. Il va fonder son propre orchestre. On l'entendait ici jouer un guitare mambo qu'il a composé et avec un orchestre qu'il dirige. Il n'est pas encore vraiment arrangeur, mais il hésite entre un rôle de soliste et un rôle d'arrangeur qu'il remplit en fait déjà en fait pas mal, puisqu'on l'a compris, la nuance est toujours difficile à définir, à spécifier en jazz. Toujours est-il qu'il se lance en solo aux côtés de la femme qu'il a épousée, qui s'appelle Sylvia. Il compose une chanson qui a un succès énorme à l'époque, Love is Strange, chanson très écoutée dans les années 50, qui sera reprise ensuite à de nombreuses reprises, y compris par Paul McCartney, et qui va connaître une heure de gloire nouvelle dans les années 80, grâce à un film qui se penchait justement sur cette période, chanson sur laquelle se joue l'une des scènes les plus érotiques, les plus populaires du cinéma des années 1980. Je parle de Dirty Dancing. Mickey Baker et Sylvia, Love is Strange. Mickey Baker qui, en fait, après cet énorme succès dans les années 50, va se séparer de sa femme et sera très las, en réalité, du racisme qu'il rencontre aux États-Unis en tant qu'homme, en tant que musicien de jazz qui aspire à arranger autre chose, à élargir son champ des possibles. Il file donc à Paris, où dans les caves de Saint-Germain dans les années 60, on dit qu'on traite un peu mieux les musiciens noirs américains. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque son génie est très vite reconnu dans la capitale française et qu'elle lui vaut de devenir l'arrangeur de tous ceux qui d'abord, dans un premier temps, veulent copier les Américains, notamment Billy Bridge et son orchestre. Et il s'adjoigne, il adjoint Billy Bridge et son orchestre. Il va aussi s'attaquer à des figures yéyé. Par exemple, on sait peu qu'il a arrangé la plupart des titres des premiers albums de Françoise Hardy, notamment plusieurs titres sur son album de Mon ami la rose. On lui doit aussi les arrangements, l'accouchement finalement de la plus merveilleuse des blueswoman françaises, la seule peut-être, qui en appelle à lui pour arranger son tout premier album, un enfant tardif qu'elle met au monde à 38 ans. Elle s'appelle Colette Mani. Et si aujourd'hui on fredonne ce chef-d'œuvre qu'est Mélocotone, c'est aussi, il faut le dire, grâce au génie de Mickey Baker.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où elle est maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main.
Mélocotone. Petit chef-d'œuvre arrangé par Mickey Baker. On a entendu Mickey Baker arrangeur par nécessité plus que par choix. Certains l'ont été au début de leur carrière. C'est le cas évidemment d'Ennio Morricone avec qui on avait envie de refermer cette émission. Ennio Morricone qui en réalité est tout à fait l'héritier de cette tradition de l'arrangement du jazz puisqu'on le sait peu. Quand on entend Morricone, on pense évidemment aux grands orchestres, à la tradition opératique italienne. Mais en réalité, il était le fils d'un trompettiste de jazz. Et c'est ainsi véritablement que Morricone a grandi dans sa plus tendre enfance, familiarisé au jazz, à l'improvisation par son père qui finalement l'envoie faire ses classes à l'Académie Sainte-Cécile pour qu'il reçoive dignement l'héritage de la musique classique italienne. Morricone qui commence comme arrangeur à la RAI, à la radio italienne, mais aussi dans différents concours de chansons, notamment celui de Sanremo et à qui on doit certains des arrangements les plus beaux de la chanson italienne, notamment avec Gino Paoli, mais aussi avec Luigi Tenco, l'enfant maudit de la musique italienne, dans ce chef-d'œuvre qu'on adore, Tra tanta gente, où le narrateur entrevoit la femme qu'il aime et il est le seul à comprendre sa souffrance.
Io ti rivedo sempre tra tanta gente che ti sfiora, che ha voglia di te. Lungo le strade, dentro i bar dove aspetti sempre, ma tu non sai più chi. Tu non volevi, tu cercavi qualcosa che non hai, che nessuno ti dà. Ora cammini sola tra tanta gente e non sai che io soffro per te. Nelle strade giorno e notte, tra la gente che sorride, notte e giorno, senza pace, non ti stanchi. Mm-hmm.
Luigi Tenco, le merveilleux, c'est la fin de cette émission, de ce premier épisode. Il y en aura bien sûr d'autres consacrés aux arrangeurs. Merci à Lou Quevauvier à la préparation, à Emmanuel Benito à la réalisation, à Anthony Thomasson à la prise de son, à Antoine Villose et Mathilde Wagman à la discothèque et aux émissions de France Culture qui m'ont conseillé pour cette émission.
La gente che sorride. Tu non volevi, tu cercavi qualcosa che non hai, che nessuno ti dà. Ora cammini sola tra tanta gente e non sai che io soffro per te.